Bienvenue donc à cette première séance du séminaire autour de donc la sécurité du logiciel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Levillain. Donc Olivier est maître de conférence Télécom Sud Paris et donc spécialiste de sécurité informatique. Et avant ça, il a travaillé de nombreuses années à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'agence gouvernementale en charge de la sécurité informatique pour l'État et pour la France en général. Et donc un endroit où on est vraiment en première ligne, je dirais même au front, pour s'attaquer aux problèmes de sécurité informatique et constater leur ampleur. Et donc, Rajash, je suis très heureux qu'Olivier ait accepté de partager sa double vision, à la fois de celle de praticien de l'ANSSI et celle plus universitaire de son poste actuel. Merci, Olivier.
Merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais effectivement vous parler de spécification et de l'impact que peut avoir une bonne ou surtout une mauvaise spécification sur la sécurité du logiciel. Pour ça, je vous propose de traiter le plan suivant. Dans un premier temps, je vous mènerai à travers un exemple qui est un exercice que je donne à des étudiants en cours, qui consiste à implémenter un format d'image très très simple, mais vous verrez que c'est finalement un premier pas pour comprendre les problèmes que peuvent engendrer une mauvaise spécification. Puis on regardera des choses un peu plus réalistes, à travers PDF notamment. Et puis on se tournera vers le protocole TLS, le protocole donc de sécurité TLS. D'une part, en revisitant une vulnérabilité dont vous avez parlé la semaine dernière avec Xavier Leroy, qui s'appelle RapBleed. Et puis, on continuera de travailler sur TLS avec d'autres formes de vulnérabilité liées cette fois aux machines à état. Voilà. Je proposerai quelques éléments de conclusion. Avant de commencer, je rappelle mon parcours, mais surtout pour expliquer les sujets de recherche que j'ai eu à traiter pendant toutes ces années à l'ANSSI, puis aujourd'hui. Et donc, ce qui m'amène ici, c'est vraiment m'intéresser au langage de programmation, au protocole sécurisé tel que TLS, puisque c'est là-dessus que j'ai réalisé ma thèse, et avec toujours un intérêt pour l'implémentation, et en particulier l'implémentation des parseurs. Donc, c'est là-dessus qu'on va commencer, puisqu'on va parler de mini-PNG. Donc mini-PNG, c'est une spécification que je propose en exercice à des étudiants que j'ai dans divers cours. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai réutilisé depuis 6, 7, 8 ans dans différentes écoles d'ingénieurs ou universités. Et l'objectif, c'est d'amener des étudiants à implémenter un parseur, une bibliothèque en fait, pour interpréter un format d'image très simple qui est inspiré de PNG. Donc je leur propose cette spécification, qui est très courte, hein, sur une ou deux pages, un ensemble d'échantillons labellisés, c'est-à-dire qu'il y a des échantillons qui sont indiqués comme étant plutôt bons, puisque mon implémentation de référence les accepte et les affiche, et des images qui sont considérées comme plutôt mauvaises, plutôt mal formées, incorrectes, et puisque mon implémentation les refuse. Alors je ne suis pas très strict là-dessus, je leur explique qu'on peut discuter, notamment parce que la spécification, et c'est l'objet du TP, est très mal écrite. Voilà, il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas bien expliqués. L'objectif de l'exercice, il est triple, les amener à développer en suivant une spécification, donc quelque chose qu'ils auront sans doute à faire s'ils poursuivent dans divers aspects de l'informatique. Deuxième chose, apporter une forme de sécurité à ce code, c'est-à-dire essayer de mettre en place les principes, les grandes lignes que je leur ai enseignées dans les cours qu'on a eu en général avant dans le module. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de les amener à avoir, c'est me proposer, qu'ils me proposent un regard critique sur la spécification en me disant « Oui, là, on aurait peut-être pu faire mieux. » Alors ça, c'est la partie sur laquelle on arrive le plus difficilement, en général, à les amener, mais on a souvent des discussions intéressantes ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est que mini-PNG ? Mini-PNG, c'est une structure de fichier très simple qui commence avec un marqueur, un magic number, si on réutilise la terminologie anglaise, ou une signature, mais je n'aime pas trop le terme, pour des raisons de confusion avec d'autres termes. Et donc, ce marqueur, c'est mini-png. Le fichier doit commencer par une chaîne de caractères constante. Et ensuite, on va avoir l'ensemble du fichier qui va être décrit comme une suite de blocs. On retrouve l'idée qu'il y avait dans PNG qui s'appelle les chunks, c'est un peu la même idée. Ces blocs, ils ont un format très standard, TLV, tag length value. Donc un premier élément sur un octet qui donne le type du bloc, un deuxième élément sur quatre octets qui donne la longueur du bloc, et puis le contenu du bloc qui va bien sûr dépendre du type du bloc. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de bloc? Dans un fichier, on va trouver des blocs hash. On est censé avoir dans un fichier PNG valide un bloc hash, hash pour header en tête, qui contient des informations sur le format de l'image, sa largeur et sa hauteur sur 4 octets chacune, et puis le type de pixel, c'est-à-dire est-ce que c'est une image en noir et blanc, en couleur ou en niveau de gris. On peut avoir aussi des commentaires qui sont optionnels, et puis des blocs de données qui seront concaténés pour produire l'image à afficher. Alors, le problème de cette spécification, je vous l'ai dit, elle est mal écrite au sens où elle ne décrit pas tout. Premièrement, l'ordre des blocs n'est pas vraiment explicité puisque la manière dont c'est décrit dans la spécification, c'est celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire un fichier valide contient tel bloc, mais il n'est pas écrit de manière explicite en noir sur blanc, le bloc H doit être en premier. Ça semble plutôt une bonne idée pourtant, mais ce n'est pas écrit. Et il se trouve que le code des étudiants va naturellement essayer de s'adapter aux échantillons que je leur fournis. Donc, puisque effectivement, quand la spécification n'est pas très claire, on peut aussi aller regarder du côté des échantillons. Et donc, naturellement, leur code va embarquer des hypothèses implicites. Et c'est ce que je leur demande, c'est de me dire, quand vous faites ce genre d'hypothèse, qui en fait vient du fait que vous avez compris quelque chose à partir de l'échantillon, essayez de le noter. Et ça, ils ont beaucoup de difficultés à le faire. Et bon, après, il y a le cas extrême où les gens vont carrément mettre en dur des constantes pour dire le bloc il commence à tel offset dans le fichier, parce que c'est ce que je regarde dans le fichier que j'utilise au début. Donc ça, évidemment, ça c'est le côté extrême dans l'hypothèse implicite et qui ne va pas marcher avec tout, même qui va même pas marcher avec tous les échantillons. Alors, quelles conséquences ces hypothèses vont avoir sur le fonctionnement? Alors déjà, on va rejeter des fichiers qui sont peut-être bien formés, donc c'est un peu gênant, mais c'est un problème fonctionnel, on va dire. Mais ça va aussi amener les étudiants à écrire le code d'une manière qui est très dangereuse et qui est la suivante, qui est de dire, je vais en fait écrire une belle boucle while qui dit, tant que j'ai des blocs, je les traite. Si c'est un bloc hash, eh bien, j'alloue un canevas dans lequel je vais pouvoir mettre les données ensuite. Si c'est un bloc de données, je copie des données depuis le bloc D vers mon canevas. Et en fait, à travers cette boucle while, on fait une hypothèse implicite qui est que le bloc H doit survenir avant le bloc D. Oui, puisque sinon, on va interpréter un bloc D et aller remplir un canevas qui n'a pas été alloué. Donc ça, c'est effectivement un type de code qu'on retrouve assez classiquement lorsqu'on fait implémenter ça par des élèves. Au passage, il peut y avoir d'autres problèmes. Si vous avez plusieurs blocs H, vous pouvez avoir plusieurs allocations. Et donc ça va mener à de la fuite mémoire. Autre problème qu'on peut rencontrer et que les étudiants ne prennent pas en compte, alors que ça, pour le coup, c'était dans la spec, puisque la spec disait il y a un bloc H. Mais voilà, si on ne guide pas bien, on ouvre la porte à ce genre de comportement. Bon. On va voir qu'il y a d'autres soucis. Il y en a un autre, moi, qui me chagrine toujours, c'est que la spécification indique qu'on va avoir des entiers qui sont sur 4 octets, mais à aucun moment je n'explique comment les encoder, ces entiers. Alors que vous le savez sans doute, quand on a 4 octets et qu'on veut les mettre dans un fichier, il y a essentiellement deux façons de faire, little endian ou big endian. Est-ce que je vais commencer par stocker les octets de poids fort ou de poids faible? Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, ils vont apprendre des échantillons et ils vont déduire, comme les échantillons sont en big endian, je vais le lire en big endian. Sauf qu'à aucun moment, en général, à aucun moment, les étudiants s'émeuvent de l'absence de cette information qui pourtant est essentielle pour une spécification. Autre point qui est intéressant, l'ensemble des entiers qu'on considère, ce sont des longueurs, des hauteurs, des largeurs. Donc, ils sont naturellement des entiers positifs. Sauf que, ce n'est pas strictement marqué dans la spécification, et on peut avoir des étudiants qui ne font pas trop attention à ça. Et j'affirme que ça peut mener, sous certaines conditions, à des situations fâcheuses. Si jamais vous commencez à lire une longueur qui est négative et qui vaut, par exemple, moins 5. Exemple de code réel, ça c'est quelque chose que j'ai codé, mais que j'ai aussi trouvé chez les étudiants. On imagine qu'on fait l'analyse, l'interprétation du fichier complètement en mémoire, c'est-à-dire qu'on charge le fichier complètement en mémoire sous la forme d'un tableau, et donc on va avoir un index qui indique où on se trouve dans le parcours du fichier. Donc quand on aborde le bloc justement qui est corrompu avec une longueur qui peut être interprétée comme moins 5, on commence par un type qui vaut ce qu'il vaut, donc pas très intéressant. Puis on tombe sur la longueur, on lit moins 5. Bon, on la lit. Ensuite, on essaye tant que faire se peut de récupérer moins 5 octets, si tant est qu'on peut donner du sens à ça. Rassurez-vous, les langages de programmation nous aident là-dedans, puisque Python accepte des slices invalides et ne génère pas d'erreur. Donc c'est un grand classique où on se retrouve à récupérer moins 5 octets, mais donc ça ne pose pas d'erreur. Et ensuite, on va mettre à jour l'index, puisqu'on a lu moins 5 octets, et on revient au début. Et donc, naturellement, on voit que ce type de code va partir en boucle infinie, et en général, en plus, on est vraiment en boucle infinie, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'allocation dans la pile, enfin, on n'a pas d'appel de fonction récursive, ce qui fait que voilà, ça boucle vraiment. Et ça encore, c'est des choses qu'on trouve dans le code que certains étudiants me produisent. Donc mon but, encore une fois, je ne l'ai pas dit au début, je le dis maintenant, n'est pas d'accabler les étudiants. Hein. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas si facile qu'il n'y paraît, mais c'est aussi voilà, de les amener à se confronter à ce que c'est que, voilà, que coder une spécification et avec un regard critique. On va continuer dans les ambiguïtés, puisqu'il y a une autre ambiguïté qui m'intéresse particulièrement, puisqu'on va la retrouver dans d'autres cas réels ensuite, c'est le problème du bloc H. Parce qu'en fait, le bloc H, si on y réfléchit, en fait, il est défini, sa longueur dans un fichier, elle est définie de deux manières. Elle est définie d'une part parce qu'il y a un bloc, une longueur L explicite qui est donnée dans le type du, enfin, dans la structure du bloc, et elle est donnée par les spécifications, puisque le contenu du bloc H, il est défini comme cette structure-là, qui fait, par construction, une longueur de 9. Donc la question, que se passe-t-il lorsque j'ai un bloc de type H dont la longueur n'est pas 9? Bien là, on a une divergence d'opinion qui peut arriver entre le code de certains élèves. Voilà, donc je vous propose ce bloc-là, qui est un bloc H dans un fichier réel que je propose aux étudiants, dans lequel la longueur annoncée, c'est 29. Et donc là, on peut se retrouver avec des interprétations un peu différentes. Donc l'interprétation qui, à ma faveur, vous l'imaginez, c'est de rejeter le bloc, et donc le fichier, en indiquant que voilà, il y a une erreur. On a une autre interprétation classique qui est de dire « j'interprète le début du bloc H comme en fait, les données utiles, et puis j'ignore la fin du bloc H, les 20 octets qui restent ». Donc ça, c'est une autre interprétation qui est possible et qui nous amène à lire le bloc suivant, là où j'ai mis la petite flèche noire. Puis il y a un autre cas qui consiste à dire « non mais je sais qu'un bloc H, ça fait 9, j'ai ma structure ». Et donc on ignore cette fois, en fait, la longueur qui est annoncée de manière explicite. Et on continue la lecture du fichier, cette fois, à l'autre petite flèche. Et on se retrouve donc avec des fichiers qui peuvent être jetés par certaines implémentations, mais quand une implémentation accepte ce fichier, ben on voit qu'il y a deux manières de le lire, et qui sont ni bonnes ni mauvaises les deux, enfin si, qui sont mauvaises les deux, en fait, puisque... À mon sens, il faudrait rejeter le fichier. Et alors, ça amène à ça, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai un fichier qui est le même, et quand vous le donnez à différentes implémentations, ça affiche une croix ou une coche, ou, si les gens se sont posé les bonnes questions à mon sens, rejettent le fichier. Donc, on a réellement une divergence dans l'affichage d'un même fichier par des programmes écrits par des étudiants sur une même spécification. On y reviendra dans un instant. Et donc, ça m'amène à avoir un premier élément de conclusion sur quelque chose que je commence à savoir depuis longtemps, parce que je l'ai vu depuis un certain temps dans mon expérience en sécurité, c'est qu'il y a un principe qui a été énoncé par un certain Postel lorsqu'on a défini l'ensemble des protocoles réseau autour de TCP/IP, qui était de dire, pour que ça marche, ça serait bien que vous soyez arrangeant sur les données que vous recevez de vos correspondants, mais par contre, soyez strict dans ce que vous envoyez. Et ça, c'est considéré comme un élément qui a été essentiel et nécessaire au développement des piles TCP/IP pour l'interopérabilité. Bon, on voit bien que de l'autre côté, d'un point de vue sécurité, c'est dramatique, puisque ça veut dire qu'on commence à ouvrir finalement la porte à des interprétations diverses, y compris des interprétations fausses, et avec lesquelles on va devoir vivre. Parce que le problème, quand on est arrangeant, c'est qu'on a du mal à revenir dessus après. Et ça nous montre aussi, enfin, faut savoir que cet état d'esprit, c'est vraiment le penchant naturel des élèves qui vont être capables de tout faire parfois pour que ça marche. C'est-à-dire que vous leur donnez un fichier, on est dans un cours qui parle de sécurité, vous leur dites ce fichier, moi je le rejette, ils vont quand même vous l'afficher. Et encore une fois, c'est un penchant naturel. Il faut être vicieux et avoir un grain peut-être pour être faire la sécurité, c'est pas naturel. Et là on le trouve ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut... semer ces graines de la sécurité, il faut le faire très tôt, parce que ce n'est pas un état d'esprit qui se cultive naturellement et facilement. Bon, et puis aussi, ce serait bien qu'on ait des bonnes spécifications. On va donc passer maintenant à des vraies spécifications, on va parler de PDF. Voilà. Donc PDF, c'est un format dont vous avez peut-être entendu parler, que j'utilise actuellement, qui permet donc de contenir des documents, et qui a le format suivant. Voilà, donc si on l'aborde simplement avec un exemple minimaliste, C'est un en-tête, en fait, un marqueur pour 100 PDF avec une version, suivi d'un certain nombre d'objets qui vont décrire des polices, les pages, les contenus des pages, la table des matières, etc. À la fin, vous avez une table de référence, de cross-référence, XREF, qui va référencer l'ensemble des objets présents dans le fichier. Et la table de cross-référence se termine par un trailer qui indique où est la racine du fichier, c'est-à-dire le point d'entrée pour interpréter l'arbre des pages. Et on termine par un petit offset à la fin qui dit où se trouve la table de cross-référence. Donc ça a l'air un peu compliqué, ça l'est. Et si on regarde effectivement comment on est censé interpréter, parser un tel fichier d'après l'aspect si on est sérieux, ben on commence par vérifier l'en-tête, le marqueur au début. Puis on va tout à la fin récupérer l'adresse de la table de cross-référence. On récupère les informations sur les objets. On récupère la racine du document dans le trailer, là, ce petit élément tout à la fin, et puis ben, on a tous les éléments pour parcourir l'arbre de proche en proche. Alors on voit quand même que c'est quelque chose d'assez complexe, notamment pour une raison que moi je n'ai jamais trop aimé dans les formats de fichiers, pour en avoir étudié un certain nombre, c'est parce qu'on a des pointeurs, là, ces offsets. Et ça c'est particulièrement gênant à mon sens, puisque PDF est annoncé, et en tout cas on a l'impression quand on regarde vite fait un PDF, que c'est un format textuel. Et pour moi, les formes, les offsets, les déplacements, ces pointeurs, ils n'ont pas trop de sens. Ils appartiennent à un autre monde, on est plutôt dans le monde des formats binaires, comme des exécutables, où là aussi on a des offsets. Mais je trouve que c'est un peu embêtant de mélanger les deux. Et alors, cette structure-là, elle s'explique quand on sait qu'on peut ajouter du contenu après coup à un PDF, c'est ce qu'on appelle les ajouts incrémentaux, là, les modifications incrémentales d'un fichier PDF. Et en fait, ça nous amène à nous rendre compte d'une chose, c'est que PDF est un format qui a été conçu non pas pour favoriser la lecture, qui est, à mon sens, l'opération la plus courante avec un fichier PDF, mais pour optimiser, mais pour faciliter l'ajout de contenu sans toucher au fichier existant. Et ça, c'est un choix assez étonnant, mais qui a un impact sur la complexité folle qu'on a à le lire. Et en fait, cette complexité, elle ne s'arrête pas là, puisque là, je viens de vous parler de mise à jour incrémentale, c'est-à-dire l'idée qu'on va rajouter des objets et rajouter des nouvelles tables de référence. Mais en fait, on peut aussi compresser des objets, ce qui redonne aussi un flou entre est-ce que c'est un format textuel ou un format binaire, puisque par construction, on va avoir des passages qui vont être pas interprétables comme du texte. Puis il y a une autre chose que j'aime beaucoup, c'est les fichiers dits linéarisés, parce que le problème des fichiers PDF, quand vous les téléchargez sur Internet, c'est que s'ils font 1 méga, un giga ou 50 mégas, ils sont un peu gros, vous n'allez pas pouvoir les afficher tout de suite, pour une raison simple. Les informations de structure sont à la fin. Pas de problème. On vous propose avec les fichiers linéarisés d'avoir une première table de référence au début, qui est partielle. C'est pour vous aider à trouver les premières pages. Alors, donc déjà, ça veut dire que vous avez une redondance d'information, et on l'a vu sur des cas très simples, la redondance d'information, ça peut mener à des solutions intéressantes. Et vous avez également un autre problème, mais ça c'est plus parce que les gens de PDF, qui spécifient PDF sont assez chafouins. Le format de la table de cross-référence du début n'est pas du tout le même que celui de la fin. Donc ça, c'est plus pour qu'on continue de s'amuser et qu'on ait un peu de complexité ajoutée. Bon, il y a d'autres choses, le chiffrement, la signature, etc. Et donc, je ne vais pas les détailler, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous avez énormément de vulnérabilités sur ces lecteurs-là, puisque comme tous les formats complexes, ça induit des problèmes de corruption mémoire, des problèmes de déni de service quand on tourne dans des boucles ou qu'on fait planter par des accès des accès légitimes à certaines portions de mémoire, ou l'exécution de code arbitraire. Et encore, là, je n'ai parlé que de structure de fichier. Je n'ai pas parlé du fait qu'un PDF peut embarquer du JavaScript, peut embarquer n'importe quelle forme d'image, ou des formulaires, ou des vidéos, etc. Donc là, on travaille vraiment qu'au niveau structure. Et il y a déjà beaucoup à dire. Alors, il y a des écarts à la spécification qu'on constate, de la même manière que mes étudiants, quand je leur donne une spécification mal écrite, eh bien, ils font des écarts par rapport à l'intention de la spécification. Eh bien, c'est la même chose dans PDF, notamment la première, elle est sur le marqueur. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Les lecteurs PDF acceptent des fichiers qui n'ont pas le marqueur. XPDF, bon, je ne veux pas le faire, mais XPDF, vous lui enlevez le marqueur, il fait « c'est bon, j'affiche le fichier quand même, c'est pas grave ». Adobe Acrobat Reader, enfin Adobe Reader, ou je ne sais plus quel est le nom actuel, il est quand même beaucoup plus sérieux, puisque lui, il vérifie que le pourcent PDF est là, mais dans le premier kilooctet. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la spécification. La spécification dit que le fichier commence par pourcent PDF. Il y a d'autres réactions intéressantes qui vont nous amener à des divergences d'interprétation, c'est les réactions variées qu'on peut avoir à certaines erreurs de syntaxe. Vous avez des dictionnaires, donc clés-valeurs qu'on retrouve dans certains objets de PDF. Et quand vous avez des erreurs de syntaxe sur les clés, eh bien, alors... Une chose qui est claire, c'est que jamais un lecteur PDF ne va jeter votre fichier. Par contre, il va peut-être l'interpréter la clé différemment. Et du coup, vous avez peut-être des choix qui vont être différents dans tel ou tel lecteur, ce qui nous permet de différencier et d'amener à de l'exécution de code différente, ou en tout cas de la lecture de fichiers différenciés en fonction du lecteur. Donc ça, c'est des choses qu'on avait montrées dans les travaux que j'ai cités, qu'on a menés il y a quelques années, enfin qui sont cités en début de section. Et puis, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que si jamais la table de cross-référence est corrompue ou correspond à des offsets faux, et ça, vous pouvez le faire très facilement en ajoutant du texte entre le pourcent %PDF et vos premiers objets, donc vous décalez de fait tous les offsets, donc la table est fausse, eh bien, tous les lecteurs vont l'accepter. Et en fait, il y a une raison à ça, et c'est pour ça que je dis que PDF est une mauvaise spécification, c'est en grande partie pour ce genre de phrase, dans lequel la spécification dit « si le fichier est un peu abîmé ou que vous ne retrouvez pas vos petits, vous avez le droit de vous débrouiller ». Ça, je trouve que c'est inadmissible dans une spécification. Voilà. Mais c'est peut-être un point de vue un petit peu rude, mais ça, c'est dangereux, très dangereux. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la sécurité, tous ces petits écarts en fait, qui peuvent exister? Ça permet d'avoir une certaine flexibilité pour faire ce qu'on appelle des fichiers polyglottes. Donc, quelqu'un que je connais un peu, qui s'appelle Ange Albertini, qui a beaucoup joué avec ça et qui a fait des fichiers qui étaient à la fois des fichiers PDF valides, au sens où les lecteurs les acceptaient, et des exécutables Windows valides. Donc on voit bien que ça va permettre de créer une forme de confusion dans certains mécanismes de sécurité, on peut penser aux antivirus, qui vont dire « Oh, un PDF !» Donc je l'analyse comme PDF, il est sain, il n'y a pas de problème. Puis après, on le sauve sur le système de fichiers, puis on essaie de l'exécuter. Bon, il se trouve que c'est aussi un exécutable. Donc évidemment, le scénario est un peu plus complexe que ça, mais on voit qu'on amène, on amène quand même, on ouvre la possibilité à ce genre de problème. Autre problème, c'est l'absence d'affichage de confiance, puisque comme il va y avoir des divergences d'interprétation du fichier, on va finalement afficher un fichier différent selon que je l'ouvre dans Adobe ou dans XPDF. Et ça, je trouve déjà que c'est un peu gênant, mais en plus, ça le devient encore plus quand vous considérez un fichier qui est signé. Oui, parce que le fichier signé, c'est le même. Le contenu n'a pas bougé. C'est juste que l'interprétation qui en est faite est distincte. Ça, c'est vraiment un problème grave et qui n'est pas forcément toujours bien pris en compte que l'affichage de confiance... C'est pas simple, et ça commence par la structure. Et puis, encore une fois, on a donné un peu de mou à l'attaquant, et bien ce mou, l'attaquant peut un petit peu l'exploiter, cette flexibilité, pour mener des attaques plus sophistiquées, et par exemple, réaliser des collisions SHA-1 entre deux fichiers PDF valides. Enfin, valides à discuter, mais en tout cas acceptés par les lecteurs. Et ça, c'est des travaux qui ont été présentés par Stevens et al. En 2017, avec notamment dans le et al., il y a Ange Albertini qui a apporté son expertise sur le PDF. Donc c'est un très joli, évidemment, c'est un très joli travail, à la fois du point de vue crypto et du point de vue format de fichier pour faire en sorte que tout ça marche bien derrière. On va continuer avec PDF, aller un peu plus loin dans les structures, puisque le PDF c'est très riche, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, le PDF vous permet d'embarquer une table des matières. Donc c'est agréable, on est capable de retenir la structure du document qu'on présente pour pouvoir facilement cliquer sur tel ou tel chapitre ou telle section. Donc naturellement, cette structure, c'est un arbre. Un arbre qui dit, j'ai des chapitres qui ont des sections, etc. Le problème, c'est qu'il est représenté par des listes doublement chaînées qui, en fait, permettent d'exprimer beaucoup plus qu'un arbre. En particulier, on peut exprimer certains cycles, par exemple ce genre de cycle-là. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute ça? Alors évidemment, je vais vous rassurer, aucun document PDF avec un cycle comme ça n'a été rejeté par un lecteur. Mais par contre, on a ce genre de comportement dans lequel, par exemple, Chromium, donc ça, je l'ai fait c'est une capture d'écran récente, c'était il y a quelques jours, Chromium, vous cliquez sur page 1, page 2, vous continuez, puis en fait, il parcourt, il continue. Mais il est gentil, lui, parce qu'il fait ça à la demande. Il y en a d'autres qui font ça en amont, donc pas de manière paresseuse, et qui vont donc parcourir. Et ça mène soit, en fonction du fait si on a du récursif terminal ou pas, en gros, mais ça mène soit à un plantage, puisqu'à un moment, vous allez remplir toute votre mémoire à parcourir cet arbre qui n'en est pas un, soit vous allez consommer du 100% CPU pendant un certain temps. Donc ça rappelle des choses que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est pas les mêmes structures, mais on a encore ce genre de problème. Donc personne ne rejette le fichier, j'aimerais bien, encore une fois, mais Parce que c'est pas que je suis méchant et que je veux pas des fichiers, mais un fichier mal formé, c'est plutôt une bonne idée, je pense, de le rejeter. Donc, moi, j'en déduis un petit peu que la complexité et l'ambiguïté, ce sont vraiment des ennemis dans la sécurité, et PDF vraiment rentre dans les deux cas, puisque dans ces deux problèmes, puisque c'est très complexe, c'est défini par un grand corpus de documents. Hein. Le standard ISO de base, il fait déjà plusieurs centaines de pages. On va y revenir, mais c'est des centaines de pages écrites en anglais, hein, donc, et pas avec des définitions un peu plus structurées et formelles. Et on l'a vu, la spécification, et ça c'est très grave, et l'écosystème, ça c'est plus classique, encourage les lecteurs à être arrangeants, à être accommodants face à des fichiers mal formés. Donc ça amène à des problèmes de sécurité qui sont très proches de ce que je décris à mes étudiants et que je fais faire, que je fais implémenter à mes étudiants UniPNG. Voilà, des corruptions mémoire, des problèmes d'interprétation diverses et des problèmes de déni de service avec des boucles infinies. Donc ça montre que ce que j'arrive à faire avec mes étudiants en une page de spécification, ben PDF l'a fait avec 600 pages, mais avec un peu plus de bugs à la clé. Alors, quelles sont les solutions? Alors, j'ai conscience, hein, là c'est peut-être mon côté académique et moins réalité de terrain qui me vient de l'ANSI, mais moi j'aimerais bien qu'on formalise un peu les formats de fichiers avec des vrais outils. Par exemple, je sais pas, quand on définit un format de fichier textuel, il semble qu'on a un truc, ça s'appelle les grammaires BNF, et c'est pas mal en fait pour ça. Et de fait, un des résultats du stage dont je me sers pour cette section-là, a été de proposer une version restrictive de PDF, pas très restrictive mais un peu restrictive, qui s'exprimait sous la forme d'une BNF. Donc dans laquelle on disait non, mais il n'y aura pas de trous, vos objets ils arrivent comme ça. La table de référence, en fait, on l'ignore un peu parce que de fait on les a vus dans le bon ordre, les objets, et en fait on peut l'exprimer. Et voilà, et puis je propose, encore une fois, vous l'avez compris, de remplacer la note postale par quelque chose d'un peu plus strict, parce qu'en fait c'est dangereux d'accepter des choses qui ne sont pas conformes. Voilà, on va quitter un petit peu le monde des formats de fichiers et rester un peu sur le même genre de problème et s'intéresser à un exemple de vulnérabilité dont vous avez parlé la semaine dernière, qui est Heartbleed, donc qui touche le protocole TLS. Donc comme je parle de TLS, ben, j'utilise ma planche développement durable. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur TLS, donc j'ai beaucoup présenté ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais TLS, c'est un protocole qui permet d'établir des connexions sécurisées, c'est-à-dire d'authentifier le serveur auprès du client, d'établir un secret partagé et d'établir un canal dans lequel les données vont être protégées en confidentialité et en intégrité. Donc pour cela, on utilise un certain nombre de messages. Donc le client envoie des messages, le serveur en envoie. Je vais pas les détailler, on va regarder certains détails un petit peu tout à l'heure. Et c'est quand même quelque chose qui date, hein, parce que la première version de SSL, l'ancêtre de TLS, ça date d'il y a bientôt 30 ans. Aujourd'hui, dans les déploiements, on va dire, décents, on est censé utiliser uniquement TLS 1.2 et TLS 1.3. C'est ce qu'on retrouve dans le monde du web, par exemple. Aujourd'hui, le web a complètement abandonné, presque complètement abandonné ce qui était avant TLS 1.2. C'est moins le cas dans d'autres écosystèmes. Et donc Heartbleed, qu'est-ce que c'est? Donc vous l'aviez vu, c'était un problème de lecture de données au-delà de la fin d'un tableau qui amenait à la divulgation d'informations dans la bibliothèque OpenSSL. L'idée étant qu'un client se connecte à un serveur, lui envoie un message formé d'une certaine manière et le serveur va répondre avec des données qui ne sont pas légitimes et qui peuvent contenir des secrets, y compris des secrets qui ont été échangés avec d'autres clients. Alors, on va essayer de regarder ça et de comprendre les causes profondes, parce que moi j'affirme que Heartbleed, c'est avant tout un problème de spécification. Donc comment ça se passe, Heartbleed? Heartbleed, il faut comprendre déjà comment les messages TLS sont envoyés. Tous les messages TLS sont envoyés selon la structure suivante. Donc on retrouve quelque chose de assez simple, hein. Tag length value, donc on a encore une fois un type de message, la version du protocole. On va l'ignorer complètement dans cette partie, la longueur du record et puis son contenu. Vous pouvez mettre plein de choses dans le record, vous pouvez mettre des messages de handshake, donc les messages qui servent à la négociation. Et le problème des messages de handshake, c'est qu'ils peuvent être longs. En fait, leur longueur, elle est stockée sur 24 bits, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 16 mégaoctets. On a rarement 16 mégaoctets, mais on peut aller sur des gros messages, alors qu'un record est limité à 16 kilooctets. Au passage, 16 kilooctets, ça veut dire 14 bits, sauf qu'on utilise une longueur sur 16 bits. Je vous laisse aussi imaginer ce que quelqu'un de vicieux en sécurité se dit, et si je mettais des records un peu plus gros, qu'est-ce qui se passerait? Bon. Donc vous avez ce message de handshake, qui est trop long parce que vous avez des gros certificats, et bien dans certains cas, et ça l'aspect le dit, vous pouvez l'éclater sur plusieurs records. Donc là, c'est ce qu'on fait. On commence par éclater mon message en check sur plusieurs records, et on va produire deux messages de type en check avec le premier morceau, puis le deuxième morceau. Il y a d'autres types de messages, par exemple les erreurs, qui s'appellent alertes dans la terminologie TLS, qui elles vont être contenues dans exactement un record. Bon, au passage, ce n'est pas forcément écrit aussi clairement dans l'aspect, ça devrait, mais ce n'est pas aussi clairement écrit. Et puis arrive Heartbeat. Donc Heartbeat, c'est ce nouveau protocole, ce nouveau type de message qui est introduit par la RFC 6.65.20 et dont le but est d'envoyer des messages et de vérifier que le serveur, par exemple, est encore à l'autre bout du fil. Donc les messages de type Heartbeat, ils commencent par le type Heartbeat, bon, la version qu'on va ignorer, une longueur de bloc, enfin une longueur de record, hein, très classique, et on vous dit un message Heartbeat qui est contenu dans ce type de record va avoir le format suivant, un type, pour dire si c'est une requête ou une réponse, une longueur du contenu, puisque ce contenu-là est censé être répété par la personne qui est en face, et puis du padding, donc du bourrage, au moins 16 octets. Ça, c'est ce que dit la spécification. Je vous ai à peu près mis dans un schéma ce que dit la spécification. Sauf qu'il y a une question qui se pose assez naturellement. Qu'est-ce qui se passe si le grand L qui est annoncé ici n'est pas compatible, c'est-à-dire est tel que il est plus petit que la longueur qui est ici, plus 19, c'est-à-dire les 3 octets là, et puis les 16 octets minimum qu'il y en a. Eh bien, là, le problème, c'est que mon schéma, comme la spécification, ne dit pas trop. Et donc, évidemment, vous me connaissez, moi, si je vois ça, je le rejette, hein, le record. Moi, je ne suis pas gentil, je le rejette. On pourrait avoir une autre interprétation qui aurait du sens vis-à-vis de TLS, comme je vous l'ai mis pour les messages de type handcheck. On pourrait dire, en fait, le reste du message heartbeat, il va se trouver dans un autre record. Donc on va attendre le suivant et on va les concaténer. Puisque c'est ce qu'on fait pour le handcheck. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire là? Ça n'a pas vraiment de sens puisque le but de ce contenu hein, qu'on répète et qui est de taille variable, c'est en fait d'établir ce qu'on appelle le path MTU, c'est-à-dire la découverte de la taille maximale qu'on peut envoyer dans le tuyau entre le client et le serveur. Donc on voit bien que si on commence à les éclater, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc après, vous avez la façon dont OpenSSL, jusqu'à ce que Heartbeat soit corrigé, faisait, c'est-à-dire de dire « tout va bien, en fait, on va faire comme si le record était complet, et donc quand on me demande de répondre à un tel message, je vais répondre avec le contenu et puis ce qui se trouve derrière. » Donc potentiellement, beaucoup de choses intéressantes pour l'attaquant. Et donc, encore une fois, pour moi, ça c'est un problème de spécification, parce que la spécification n'a pas la phrase que je donne ici, qui est « un record de type Heartbeat devrait contenir exactement un message Heartbeat ». Mais il ne l'a pas non plus pour l'alerte, ni pour d'autres choses. Et ça, c'est vrai que vous avez des messages qui tournent autour du pot, mais vous n'avez pas ce message-là. Voilà, donc j'en termine avec les formats de fichiers avec cet exemple-là, et maintenant je vais vous proposer de passer dans une autre dimension peut-être un peu plus complexe, parce qu'en général, quand on implémente des formats de fichiers ou des protocoles, l'étape de structure basique des messages, c'est le début. Après, on interprète les choses, donc on rentre dans une logique avec une machine à état. Et typiquement dans TLS, on dit qu'est-ce qui se passe quand je reçois tel message, puis tel message, et que je suis dans tel état. Et donc, on reprend ce schéma, et on va regarder plus précisément deux messages qui sont intéressants. Donc là, ça, c'est la machine à état. C'est pas la machine état, c'est un déroulement classique d'une connexion TLS 1.3 dans laquelle à un moment le serveur va annoncer je suis le serveur pour le site www.perdu.com. Donc il le fait à travers un certificat, voilà, il présente son identité et puis ensuite il va essayer de prouver son identité, donc ça, généralement ça passe par la signature avec la clé privée associée à la clé publique présente dans le certificat. Donc on a bien ces deux étapes, je m'identifie, je donne mon login, je prouve, je donne mon mot de passe, bon c'est un peu différent, mais c'est cette idée-là. Donc on voit bien que ce message-là, évidemment, certificat de verify, il nécessite d'avoir la clé privée, n'importe qui n'est pas censé pouvoir le produire. Donc maintenant, une question qui peut être naïve, mais que des gens se sont posées, c'est qu'est-ce qui se passe si un client accepte une connexion dans laquelle il a vu un certificat, mais dans laquelle le certificat de verify ne lui a pas été présenté. Dit autrement, qu'est-ce qui se passe quand un client accepte que quelqu'un lui dise « je suis tel serveur » mais sans lui prouver ? Eh bien, on voit bien que l'attaquant qui joue ce scénario-là n'a plus besoin de la clé privée pour réaliser une négociation complète puisque le client est tolérant. Enfin, bon, là, c'est même plus que de la tolérance. Et donc ça, si on l'exprime en termes d'attaque, bah, ça revient à dire qu'on a une usurpation d'identité de n'importe quel serveur qui est possible vis-à-vis de ce client-là. Et donc ça, c'est une vulnérabilité qui existe. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut le décrire ou le représenter, ça ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a. Alors ça, c'est même pas ça. Ça, si, ça, on l'a dans la spécification. Alors, pas avec un joli schéma, hein, parce que les spécifications qui décrivent tous ces protocoles-là sont des fichiers texte, les RFC. Donc c'est un choix qui est discutable, mais ça a aussi du sens hein, de faire des fichiers simples, des fois. Et moi, j'appelle ça le diagramme en serpent. Je ne sais pas si c'est un nom un peu plus officiel que ça. Et en fait, ça revient à décrire ce qu'on appelle habituellement le happy path, c'est-à-dire la suite logique d'une connexion typique. Moi, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est toujours intéressant pour expliquer aux gens comment ça marche, mais on sent bien les limites. Tout à l'heure, voilà, pour vous expliquer qu'il manquait un fichier, un message, j'ai dû le mettre en grisé. C'est pas forcément très lisible. Voilà. Donc, c'est pas forcément très lisible pour expliquer un scénario divergent, et c'est pas forcément très explicite pour expliquer ce qu'il faut faire dans tous les cas. Donc après, vous avez un travail qui a été fait un peu plus récemment dans la RFC 8446, donc qui définit TLS 1.3. C'est proposer au format texte, donc oui, je suis désolé, c'est pas très lisible, hein, mais le but, c'est pas que vous le lisiez là, hein, mais voilà, pour que vous ayez un exemple. Donc ils ont proposé une machine à état, informelle. Alors je dis informelle parce que, voilà, typiquement, il y a des endroits où il y a des crochets, que vous voyez peut-être pas trop. Ces crochets, en fait, ils veulent dire, à ce moment-là, peut-être que vous envoyez un message, peut-être que vous l'envoyez pas. Sauf que le problème, c'est que le peut-être va dépendre de si vous êtes passé par là ou par là. Donc, moi, ça me gêne un peu d'appeler ça une machine à état. On est quand même dans une représentation très, très informelle. Quelque chose d'intéressant, on est obligé dans ce cas-là d'exprimer la vision du client, puis la vision du serveur. On a un peu changé la manière de représenter les choses. Et j'affirme que ça, c'est une description encore ambiguë, puisque voilà, on a ce côté avec des choses entre crochets qui ne donnent pas de manière très précise ce qui est attendu d'une implémentation conforme. Et j'ajouterais, même si les RFC n'ont pas un langage, enfin, ont un langage normatif, mais qui est peut-être moins poussé que dans d'autres spécifications type ISO, mais on est dans une annexe. Hein. Donc ça, c'est du cadeau. C'est-à-dire que ça, c'est, si vous vous intéressez au protocole et que vous voulez l'implémenter, voilà des informations en plus. Mais ça n'est pas normatif. Ce n'est pas ça qui dit une implémentation conforme doit faire ça. Donc c'est encore un choix de l'IETF, l'IETF qui ne veut pas imposer d'implémentation, de façon d'implémenter. Il veut laisser libre les développeurs parce que voilà, il y a peut-être de l'espace pour de la création à ce moment-là. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, qu'il ne devrait pas y en avoir. Mais voilà, une belle divergence d'opinion là-dessus. Et on peut aussi représenter ça sous la forme d'un automate, en fait. Alors, ce n'est pas tout à fait un automate, c'est ce qu'on appelle une machine de Mealy parce que, en fait, à chaque transition, on va étiqueter la transition en disant à ce moment-là, quand je suis dans l'état 0 et que je reçois le serveur Hello, je passe dans l'état 1 et j'envoie les messages qui sont ici. Bon, là, aucun. Quand je suis dans l'état 4 et que je reçois un finished, ben, je vais passer dans l'état 5 et j'envoie les messages finished et application data. Donc là, l'avantage de cette formalisation-là, c'est qu'elle peut être formelle. Hein. Là, on peut vraiment faire un automate avec tous les éléments. On ne le voit pas forcément sur ce joli schéma qui est extrait d'un article, mais ça mène quand même à une représentation qui est beaucoup plus lourde. Là, j'ai enlevé tout un tas de cas pour que ça soit sur un schéma simple. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire une implémentation qui est complètement explicite, formelle, des messages à envoyer, dans quel état, etc. Et donc, maintenant, je vais vous reparler de la vulnérabilité CVE 2020-24613 sur WolfSSL, qui consiste à dire qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'état, du point de vue du client, que je suis dans l'état 3, j'ai vu le certificat, et qu'on m'envoie un message finished. Et bien là, avec cette représentation-là, on a quelque chose qui apparaît comme le nez au milieu de la figure, c'est qu'on voit un court-circuit. On arrive on arrive dans le même état que si on avait eu l'authentification propre, mais sans avoir à passer par un message que seul le serveur peut produire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est un exemple évidemment simplifié à l'extrême, mais pour vous montrer que ces représentations-là peuvent aider à comprendre la spécification et peuvent aider à mettre en évidence des problèmes. Et en fait, voilà, le travail qu'on réalise actuellement, c'est d'utiliser un algorithme qui s'appelle LSTAR, qui au départ travaille sur des grammaires pour faire de l'inférence de grammaire, et qui a été étendu pour faire de l'inférence de machine à état, machine de Mealy, et qui est très utilisé aujourd'hui sur les protocoles réseau, et donc qui permet, en boîte noire, de décrire le comportement d'une implémentation, par exemple TLS ou HTTP2, juste en interagissant avec cette implémentation. Alors, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de choses, mais l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir une vision assez fine du fonctionnement interne d'une pile réseau, et derrière, qui est assez fiable et qui donne des informations intéressantes. Voilà. Il y a d'autres approches, notamment peut-être que je crois que Kartik Bhargavan, qui viendra bientôt, vous en parlera peut-être un petit peu, qui ont été établies pour chercher des problèmes dans les machines à état, mais qui sont complémentaires ou un petit peu différentes, pas les mêmes hypothèses, mais qui cherchent aussi à mettre en évidence ces problèmes dans les machines à état. Donc l'application à TLS de ces problèmes-là, eh bien, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on va rechercher de manière systématique des courts-circuits intéressants, c'est-à-dire des courts-circuits qui permettent à un attaquant d'arriver dans un état où normalement on n'arrive qu'après authentification, mais sans avoir à fournir de message d'authentification. On va rechercher aussi quelque chose que des boucles. Alors les boucles, pourquoi est-ce qu'on cherche des boucles dans la machine à état? Parce que ça nous permet de monter des attaques en déni de service. Imaginons que, et ça arrive aussi, certaines implémentations de TLS acceptent avant l'authentification, la négociation complète, des boucles, ça veut dire que moi je vais pouvoir lui envoyer un petit message de temps en temps. Si j'ai de la chance, la boucle, elle est avant le chiffrement, donc en plus, c'est un message que j'ai vraiment qu'à répéter tel quel sans faire aucun calcul. Et on a vu certaines implémentations qui allaient maintenir active une connexion TLS dans un état très tôt, très tôt dans le machine état, avec un message par heure. Donc on lui envoie un message par heure et on a gagné le fait que cette connexion-là va être ouverte. Bon, vous faites ça 10 000 ou 100 000 fois, vous avez fait en sorte que plus personne ne puisse se connecter à ce serveur-là, avec très très peu d'efforts et sans aucun journal. Il n'y a pas de journalisation de ces éléments-là puisque vous ne montez jamais la connexion. Et puis après, quelque chose qui peut être vu, alors c'est un peu limite sécurité, mais qui peut être intéressante aussi, une chose intéressante, c'est le fait que toutes ces machines à état que vous allez construire sur différentes versions de TLS, vous pouvez les utiliser pour mettre en place un protocole, un algorithme de fingerprinting, donc de capture d'empreintes et puis d'identification a posteriori d'une pile TLS ou d'un autre protocole. Donc, quelle est la source, pour moi, l'origine du problème? C'est encore une fois une façon d'implémenter qui est très courante, qui ressemble à la première implémentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle où j'avais une boucle while qui disait « quand je vois un bloc H, je fais ça, quand je vois un bloc D, je fais ça », en oubliant complètement qu'en fait, il y a un ordre qui est le seul dans lequel ces traitements ont du sens. Eh bien là, c'est pareil, en fait. Certaines implémentations vont être en réaction pure à ce qu'on leur envoie. Donc en gros, on leur dit « voilà un message de tel type », ils font « oh, super !» Donc je l'interprète. Et puis c'est après que je me dis « peut-être que je ne sais pas quoi en faire ». Et c'est seulement après avoir fait toute la phase d'interprétation profonde du message qu'on se retrouve à jeter le message et peut-être la connexion. Alors qu'on aimerait être dans un état beaucoup plus défensif en disant « ok, j'attends un message de tel type, donc je regarde le type du message. S'il ne fait pas partie des types de messages qui m'intéressent, je le jette, sans regarder le reste ». Et ça, ça a mené à un nombre considérable de vulnérabilités sur toutes les piles TLS, vraiment en toutes, en 2014 et 2015. Et ça, c'est intéressant, c'est que de la même manière que je ne veux pas accabler mes étudiants qui font des bêtises quand ils implémentent mini-PNG, on ne va peut-être pas accabler tous les développeurs de toutes les piles TLS qui ont fait des erreurs et peut-être se dire que la spécification est trop complexe ou mal définie. Et donc les propositions, vous l'avez compris, là aussi, je pense que j'aimerais bien une représentation un peu plus formelle de la machine à état, typiquement une machine de Meli, qui représente une vraie spécification et pas quelque chose d'aussi mou que ce qui est actuellement proposé dans des RFC comme TLS. Et TLS 1.3 est plutôt bien écrite pour les RFC. Enfin, je veux dire, il y a des RFC qui sont beaucoup moins bien écrites. Donc, il faut aussi voir que c'est fondamentalement le fait de travailler avec un langage naturel qui est un problème pour les spécifications. Voilà. Et aussi, et ça, on revient à la complexité, éviter de multiplier les chemins acceptables et accepter aussi de temps en temps de jeter et de ne plus être compatible avec le passé. Parce que ça multiplie les chemins de code qui doivent fonctionner dans votre pile. J'en arrive à ma conclusion. Alors, quelques éléments de conclusion. Et voilà, quelques constats. Vous l'aurez compris, on vit quand même dans un monde où on utilise beaucoup l'informatique et on utilise des standards qui sont assez complexes, que ce soit pour les protocoles de réseau, les protocoles réseau ou pour les formats de fichiers qu'on manipule. Et donc, cette complexité, elle a un impact assez naturel sur les implémentations. On va avoir des dénis de service, des exécutions de code arbitraire ou de la confusion dans l'interprétation, comme je vous l'ai montré à travers certains exemples. Le problème, c'est que cette situation, elle est encouragée aujourd'hui par plusieurs facteurs et sur lesquels il va falloir essayer de travailler, à mon avis, pour améliorer la situation. La première, hein, j'en ai parlé, c'est qu'on a naturellement, c'est humain, l'envie que ce qu'on fait marche. Voilà. Donc naturellement, on fait du principe de robustesse, du principe de Postel, parce que c'est comme ça qu'on est câblé, on veut que ça marche. Ce n'est pas naturel de vouloir faire de la sécurité. Et ensuite, il y a un autre problème que j'ai évoqué avec l'IETF, c'est le refus de certains acteurs de la spécification d'imposer des choses. Alors, on pourrait entrer dans un débat philosophique, mais moi, à mon sens, une spécification, elle devrait être suffisamment simple pour qu'il n'y ait quasiment qu'une manière de l'implémenter. Bon, voilà, on pousse les choses un peu loin, mais... Un autre problème qu'on a, c'est qu'une partie de la communauté académique a tendance à considérer que ces problèmes-là ne sont pas intéressants, surtout les problèmes de structure sur les fichiers. Parce que, voilà, on peut entendre, il y a les grammaires BNF. Oui, mais le problème, c'est que les gens ne les utilisent pas. Donc peut-être que les gens aimeraient avoir un peu plus d'expressivité. Comment on peut les accompagner? Comment on peut travailler? Et c'est pour ça, selon moi, qu'il y a quand même du travail encore à faire. Peut-être plus appliqué, mais pas que, parce que peut-être qu'il y a des modèles et des représentations à proposer qui soient encore décidables, mais plus expressifs que ce qu'on a aujourd'hui. Ou peut-être qu'elles ne seront pas décidables, mais sous des contraintes qu'on pourra expliciter autrement. Et puis, quelque chose que vous savez sans doute, on a certains langages de programmation ou des outils qui sont fragiles et qui accentuent les problèmes qu'on peut avoir quand on fait, quand on a des erreurs de corruption mémoire, par exemple, elles sont encouragées par ces langages. Alors sur ce point-là, on peut effectivement, sur le point on va dire, de la méthodologie de développement, on peut effectivement se dire que si on utilise certains outils, certains langages, on peut éviter certains problèmes, ou au moins les détecter. Donc on peut penser à tout un tas de langages qui proposent de la gestion de mémoire automatique. Hein. Alors ça va du Java à des langages fonctionnels comme Camel ou à du Rust. On peut penser aussi au fait que on a des grosses difficultés à gérer la concurrence. Ça, c'est un problème qu'on a depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils théoriques qui existent et on a même des langages qui l'ont implémenté. Alors, c'est vrai que maintenant, parce que je pense à Rust, pour coder en Rust, il faut changer un peu son état d'esprit en tant que codeur. Donc, il y a une petite marche à entrée. Je suis gentil sur le petit. Mais peut-être que c'est peut-être une direction à encourager. Et donc, on revient aussi à l'enseignement pour que les étudiants aient ça en tête. Et puis, alors ça par contre, ça je le fais, et ça on peut le faire aujourd'hui tous quand on donne des cours dans lesquels les gens codent, encourager à l'utilisation des modes stricts, à la compilation, à l'interprétation. Parce qu'un code C qui ne compile pas quand on active 2-3 avertissements, moi je dis aux élèves, normalement c'est 0. Bon, je ne suis pas si méchant que ça, parce que je ne mets pas 0 à ce moment-là, mais je devrais. Voilà. Après, c'est bien aussi d'intégrer des outils d'analyse lorsqu'ils existent, pour aller toujours plus loin dans l'automatisation de ces vérifications-là. Toujours dans la méthodologie de développement, c'est bien d'intégrer la notion de test et de tester le négatif. Encore une fois, l'esprit de sécurité, c'est qu'il faut vérifier que ce qui ne marche pas, enfin ce qui ne devrait pas marcher, ne marche pas pour de vrai. Voilà. On peut comparer, faire une différence entre les implémentations existantes pour comprendre où pourraient se nicher des bugs. Et puis, on peut faire aussi d'autres choses autour du fuzzing pour aller un petit peu mettre sous pression le code qu'on a écrit. Puis, la partie sur laquelle je vais un peu plus parler maintenant, c'est, selon moi, là sur laquelle il faut travailler, beaucoup, et à tous les niveaux, hein, du point de vue théorique et du point de vue pragmatique, hein, c'est améliorer les spécifications. Parce que, vraiment, les spécifications qu'on a aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Elles sont complexes, elles sont longues, elles sont grosses, et elles sont rédigées dans un langage qui ne permet pas de lever les ambiguïtés. Et donc, je propose qu'on parte dans 3 directions, simplifier, formaliser, automatiser. La simplification, ça revient à dire que peut-être qu'on n'a pas besoin de gagner un demi-octet par message qu'on envoie et que certains choix de représentation, j'en ai pas du tout parlé, mais par exemple c'est le cas de Quick, sont dramatiques du point de vue de la sécurité, puisque pour gagner un tout petit peu de place sur un paquet réseau qui va être envoyé sur Internet, on va complexifier terriblement la machine à état, enfin la manière d'écrire le code. Et ça revient aussi à dire que, contrairement à ce que fait l'IETF, je pense qu'il est important de se poser la question, quand on définit un standard, de se dire comment ça va être implémenté. Parce que des choix de conception vont avoir un impact direct sur la manière dont on va l'écrire, dont on va l'implémenter. La formalisation, ça aussi, je Bon, j'ai donné quelques exemples, hein, mais moi je suis assez convaincu qu'on peut et on devrait définir de manière beaucoup plus précise les formats de messages, les transformations qu'on applique, typiquement l'éclatement d'un message heartbeat en record ou pas, le multiplexage, le chiffrement. Donc ça c'est pour la partie plutôt message, et puis la manière dont on va gérer la machine à état, donc la machine à état en elle-même, et l'ensemble des éléments qui me servent à maintenir l'état dans le protocole. Et pour ça, en fait, on a déjà des représentations qui existent, qui sont peut-être pas assez expressives pour exprimer les formats de fichiers d'aujourd'hui et les protocoles d'aujourd'hui. Mais voilà, il faut peut-être trouver quelque chose entre les deux. Et quelque chose qui existe, c'est par exemple de reproduire de nouveaux langages de description, des DSL, des Domain Specific Language, qui vont être utilisés pour décrire ces éléments-là. Et ça, c'est des choses qu'on a un petit peu regardées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur les formats de fichiers. Et la question, c'est où est-ce qu'on est en termes de robustesse de code produit, en termes d'expressivité. Et puis, vous l'aurez compris, tout ça n'a de sens que si on automatise, parce que l'idée, c'est que plus on est formel, plus on peut automatiser de choses. On peut automatiser la vérification sur la spécification elle-même, donc vérifier que des propriétés sont garanties par la spécification. On peut vérifier la conformité, parfois, de certaines implémentations à la spécification. Et on peut même, dans certains cas, dériver automatiquement des implémentations. Et moi, je trouve que ça, c'est une piste qu'on n'explore pas assez, mais qui oblige à se rendre compte que l'intelligence, elle va être où ? Elle va être dans la spécification, dans la compilation, et plus dans le code, puisqu'il n'y aura plus de code, puisque le code, il sera généré. Enfin, il n'y aura plus d'humains impliqués dans le code concret. Et dans cet esprit, voilà, on a besoin de compilateurs, mais c'est des choses qui existent, enfin, qui commencent un peu à être regardées, et qui ont existé, surtout dans certains protocoles réseau dans le passé. Et donc, la question qui vient naturellement, c'est oui, mais est-ce qu'on peut décrire, est-ce qu'on veut décrire et dériver tout ça à partir de représentations simples ? Est-ce qu'on accepte la perte d'expressivité ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, mais aujourd'hui, on ne se la pose même pas en ces termes-là. Et je pense que là, dans certains cas, la réponse pourrait être oui, au moins pour une grosse partie des spécifications. Donc, en conclusion de la conclusion, la complexité et l'ambiguïté sont vraiment les deux des ennemis de la sécurité. Et j'espère vous avoir convaincu qu'une mauvaise spécification, donc des mauvais choix de conception, peuvent mener à des implémentations dangereuses qui vont avoir des problèmes de sécurité. On l'a vu encore une fois sur TLS, sur des implémentations indépendantes. C'est assez peu probable que tous les gens qui aient développé TLS depuis 20 ans soient tous des ânes. Je pense qu'il y a aussi un problème de complexité et d'ambiguïté. Et donc les pistes pour améliorer les choses que je vous ai proposées, c'est simplifier, accepter de faire moins de choses, formaliser et automatiser. Et avec cette question que je vous laisse, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible d'aller vers une vraie simplification et uniquement des spécifications descriptives qui mènent à des implémentations en plus qui soient décidables, parce que ce serait pas mal aussi de rester dans des classes décidables. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention.